occupé l'agence France Presse. La menace du président des États-Unis est liée au refus d'Emmanuel Macron d'intégrer le Conseil de paix, projet de Donald Trump qui consiste à créer une sorte d'alternative aux Nations Unies. Par ailleurs, le président américain annonce ce matin qu'il va organiser une réunion sur le Groenland en marge du Forum économique à Davos en Suisse. Le Groenland, territoire autonome danois, convoité par Donald Trump et qu'il qualifie à nouveau d'impératif pour la sécurité des États-Unis. En France, le Premier ministre va engager cet après-midi la responsabilité de son gouvernement sur la partie recette du budget de l'État pour 2026. Autrement dit, Sébastien Lecornu va utiliser l'article 49.3 de la Constitution pour faire passer le texte sans vote à l'Assemblée nationale. Trois recours à ce dispositif vont être nécessaires pour permettre la promulgation du budget avant la mi-février. La France Insoumise et le Rassemblement National ont annoncé hier qu'ils vont chacun déposer une motion de censure suite à l'annonce du recours au 49.3. Marine Le Pen à la barre aujourd'hui au procès en appel des assistants parlementaires du Front National, l'ancien nom du Rassemblement National. La chef des députés RN interrogée cet après-midi et demain par la Cour, puis par les représentants du parquet et par les avocats des différentes parties au Palais de Justice de Paris. Elle a été condamnée en première instance, ce qui l'empêche de se présenter à l'élection présidentielle de l'an prochain. L'Hérault et l'Aude maintenus ce matin en vigilance orange pour risque de crue par Météo France. Alerte inondation levée, en revanche, dans les Pyrénées-Orientales et en Corse. Le premier tour de l'Open d'Australie, le tournoi de tennis du Grand Chelem, avec il y a quelques minutes l'élimination du français Gaël Monfils face à son adversaire australien Dane Sweeney. C'était le dernier Open d'Australie pour Gaël Monfils qui va prendre sa retraite à la fin de la saison. Par ailleurs, ce matin, Hugo Gaston, autre français, va affronter l'italien Yannick Sinner, deuxième joueur mondial et tenant du titre chez les femmes. La française Varvara Gracheva s'est qualifiée pour le deuxième tour.
Suivez le Point Bourse avec Bourse Direct, le partenaire de tous vos placements. Bourse, assurance vie, épargne.
L'ouverture ce matin avec vous, Marjorie Ancelot. Bonjour, quelle est la tendance?
Bonjour Pierre, bonjour à tous. Eh bien, la Bourse de Paris c'est du terrain pour une deuxième séance d'affilée. La baisse est quand même moins marquée qu'hier, moins 0,8% pour le CAC 40 à 8050 points. La France fait partie des 8 pays européens, je le rappelle, menacés par Donald Trump de surtaxes douanières allant jusqu'à 25% pour s'être opposé à l'annexion du Groenland. Et en plus de ça, vous en avez parlé, parce que le président Macron refuse de rejoindre ce que Trump appelle le Conseil de la paix. La France est également menacée de droits de douane de 200% sur les vins et champagne, si bien que le groupe de luxe LVMH, qui possède notamment les champagnes dont Pérignon et Ruinart, perd 1,5% sur le CAC 40. Pernod Ricard possède également encore quelques marques de champagne dont Perrier Jouet, même si le groupe a réduit son portefeuille. Pernod Ricard lâche 0,5%, mais d'une manière plus globale, la région Europe en bourse est sous pression. La banque Citigroup ne conseille plus d'acheter les actions européennes pour la première fois depuis plus d'un an, du fait, je cite, de la récente escalade des tensions transatlantiques et de l'incertitude tarifaire qui nuisent à l'attrait de la région à court terme. Voilà pour le Point Bourse.
Merci pour ces précisions, Marjorie Ancelot, en direct sur Radio Classique. Il est 9h03, votre matinée continue avec, bien sûr, les grands dossiers de l'histoire. Franck Ferrand, vous êtes là. Bonjour Franck.
Bonjour mon cher Pierre, si je vous parle d'Arsinoé, vous vous dites, ça y est, il est parti chez Molière. Non, c'est l'autre Arsinoé, la vraie, dont je vais vous parler, la sœur de Cléopâtre.
Les grands dossiers de l'histoire avec Franck Ferrand sur Radio Classique.
Nous sommes à Alexandrie en 55 avant Jésus-Christ. Un homme débarque sur les quais escorté par des légionnaires romains. C'est Ptolémée XII qu'avec un peu de mépris, on a pris l'habitude de surnommer Lolette. Lolette, c'est-à-dire le joueur de flûte. Vous voyez comme on respecte ce pharaon. Il a été chassé du pouvoir par son peuple 3 ans plus tôt. Il a tout vendu, tout promis pour retrouver le pouvoir. Et surtout, il a acheté l'appui du gouverneur de Syrie, Aulus Gabinius, qui est un proche de Pompée. Seulement, le retour du roi pharaon sur son trône est un retour sanglant. Et en son absence, la foule a porté au pouvoir sa fille, Bérénice, ce qui veut dire que pour Ptolémée, il n'y a plus de tergiversation possible. La sentence est sans appel, la trahison va se payer par le fer. Et dans l'obscurité d'une alcôve du palais royal, Voilà deux silhouettes qui, pétrifiées, assistent à l'irréparable. Ce sont deux jeunes filles dont les yeux s'écarquillent de terreur en voyant leur sœur, en voyant cette reine éphémère conduite au bourreau sur ordre de leur propre père. Les deux jeunes filles, ce sont Cléopâtre, qui a une quinzaine d'années à l'époque, et puis la petite Arsinoé, qui n'a que 10 ans. Quelle leçon politique inaugurale pour des enfants, vous imaginez. Ces petites filles, ces jeunes filles qui vont apprendre dans la violence que chez les Lagides, c'est le nom de la dynastie qui règne depuis Alexandre le Grand sur l'Égypte, chez les Lagides, le pouvoir ne se partage pas, il s'arrache. C'est en quelque sorte un traumatisme fondateur qui va rester gravé dans l'esprit de Cléopâtre, et nous savons quelles conséquences tout ça pourra avoir, mais aussi gravé dans l'esprit d'Arsinoé comme, en quelque sorte, le premier acte d'une tragédie dont elle ne sera hélas que la victime finale. On va faire un petit saut de 4 ans dans le temps. On est en février 51 avant Jésus-Christ. Ptolémée s'éteint à ce moment-là. Et derrière lui, il laisse ce royaume exsangue après un règne calamiteux, vous l'aurez compris. L'Égypte est criblée de dettes envers Rome. Il n'y a rien de pire pour une grande puissance que d'être très endettée. Je dis ça, je ne dis rien. Avec une progéniture prête à s'entre-déchirer. Le tempérament de Ptolémée XII a fait des horreurs. Et son testament désigne Cléopâtre, qui donc a 18 ans, et désigne son frère, le frère de Cléopâtre, Ptolémée XIII, qui a 10 ans, comme successeur. Et selon la tradition, ils vont devoir se marier pour régner ensemble. Le petit roi n'est qu'une marionnette aux mains de ses conseillers, et l'eunuque Potin, le général Achillas, qui ne supporte pas l'autorité de Cléopâtre, dont le caractère est déjà bien trempé, sont en vérité les véritables détenteurs du pouvoir. Fin 49, il fomente un coup d'État, il chasse Cléopâtre d'Alexandrie, elle doit s'enfuir en Syrie, seulement elle n'est pas seule, puisqu'elle est accompagnée par sa petite sœur, Arsinoé. Elle apprend, Arsinoé, à cette école qui est la terrible école de l'exil, elle apprend que rien n'est jamais acquis décidément sur ce trône des Ptolémées.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
Alors allons voir de l'autre côté de la Méditerranée, si vous voulez bien. Pompée, qui est le grand adversaire de Jules César, hein. Pompée est vaincu par César à la bataille de Pharsale. Il est en fuite maintenant, il espère trouver refuge en Orient, en Égypte, chez Ptolémée, parce qu'il entretient de bonnes relations avec Cléopâtre. Et il avait entretenu d'excellentes relations avec leur père, avec Ptolémée XII, et qui l'avait protégé autrefois. Et donc, à peine a-t-il posé le pied sur le sol égyptien que Pompée est assassiné. L'ordre a été donné par le jeune roi, mais l'idée, c'est l'idée de ses conseillers qui jugeaient la situation de Pompée désespérée et qui ont espéré de cette manière gagner les faveurs de César. Et pourquoi pas demander à César de les aider à se débarrasser de la sœur rebelle, hein, pourquoi pas après tout. César ne va pas faire du tout ce qu'ils attendaient. D'abord, quand il arrive à son tour en Égypte et qu'il se voit offrir la tête de Pompée, il est furieux. En tout cas, il fait semblant d'être furieux. Je ne sais pas si c'est vrai au fond. On dit qu'il aurait pleuré en voyant la tête meurtrie de son vieil ennemi. La vérité, c'est que César, qui décide de s'installer à Alexandrie, non pas en invité, vous l'aurez compris, mais en maître absolu, César, désormais, a les mains libres pour s'occuper de l'Égypte. Je devrais même dire pour occuper l'Égypte. César, dans sa morgue romaine, a convoqué les héritiers de l'Aulette pour arbitrer leur querelle. Il y a donc là Ptolémée XIII, cette espèce de petit manipulateur manipulé par ses propres conseillers. Et puis surtout, il y a Cléopâtre. Alors est-ce que l'histoire du tapis est vraie? Toujours est-il que César va tomber amoureux de la belle Cléopâtre et dans un coin de cette cour devenue prison, observe toujours Arsinoé. Vous allez me dire, elle est là toujours, elle. Mais oui, elle est aux premières loges, Arsinoé, pour voir sa sœur aînée déployer tous ses charmes, faire assaut d'esprit pour donner de son corps afin de séduire César. Ce dernier, qui est tout à son idylle, n'a pas non plus l'intention d'agir de manière insensée. Et pour maintenir la paix, qui est le seul moyen d'assurer l'envoi de blé à Rome, faut pas oublier que l'Égypte à l'époque, c'est le grenier à blé de Rome, César décrète le retour au testament de Ptolémée XII. Ce qui veut dire que Cléopâtre et Ptolémée XIII, de nouveau, vont devoir régner ensemble. et Arsinoé, me direz-vous, et le plus jeune des frères, Ptolémée XIV, eh bien on leur offre Chypre pour les apaiser, pour contrebalancer le pouvoir égyptien. Personne n'est dupe. Hein. Arsinoé n'est pas autorisé à quitter Alexandrie et tout le monde va rester sous la surveillance de César. Mais pendant ce temps, dans la ville, gronde une forme de tension. Et oui, ça c'est la présence des Romains qui veut ça. Hein. Et dans le silence de ses appartements, la jeune Arsinoé comprend qu'elle va devoir agir si elle n'a pas l'intention de finir comme une simple figurante dans l'ombre de sa sœur. Les événements qui suivent vont lui offrir une espèce de porte de sortie. Depuis des semaines, Achillas, le général de Ptolémée XIII, rassemble l'armée égyptienne qui maintenant est devant Alexandrie, prête à attaquer les effectifs de César, qui évidemment sont très faibles, puisque César est venu avec seulement quelques troupes. Et contre toute attente, les légionnaires romains vont réussir néanmoins à opposer dans les rues, sur les places d'Alexandrie, vont opposer une défense ferme à cette attaque des troupes de Ptolémée XIII. Dans la confusion, Arsinoé parvient à tromper la vigilance des sentinelles romaines. Elle s'échappe du palais de son geôlier, si je puis dire. Elle est là avec son eunuque qui s'appelle Ganymède. Et tous deux vont rejoindre le camp de l'armée égyptienne qui est en train d'assiéger le quartier royal. C'est une déflagration quand elle arrive. Hein. Pour le peuple, pour les soldats qui exècrent l'ingérence romaine, elle devient une espèce de symbole. Arsinoé incarne la résistance égyptienne aux Romains et l'armée la proclame reine d'Égypte, la voilà, propulsée au premier plan. Elle montre d'ailleurs une espèce d'autorité à laquelle on ne s'attendait pas. Elle va même faire exécuter Achillas pour assurer son propre pouvoir sur les troupes et durant le siège, elle va acculer César et Cléopâtre qui sont de plus en plus en mauvaise posture. Elle a l'air prête à rayer sa sœur de l'histoire. Seulement, les renforts romains finissent par arriver et puis il y a l'extraordinaire génie tactique de César, hein, bien sûr. Bref, pendant la bataille du Nil, les Égyptiens sont finalement écrasés. Ptolémée va se noyer dans le fleuve. Est-ce qu'on l'a noyé ? Bref, quant à Cléopâtre, elle triomphe maintenant. Arsinoé est capturée. Elle est la captive de sa sœur. La danse d'Arsinoé, extraite de cette suite de ballet La Nuit d'Égypte d'Anton Arensky par l'Orchestre Symphonique d'État de l'Union Soviétique sous la direction de Evgeny Svetlanov.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
Été 1946, on peut dire que Rome s'apprête à vivre des jours de liesse comme elle n'en avait jamais connu. César, après avoir annexé la Gaule, vaincu Pompée, soumis l'Égypte, mais soumis le pont aussi, Veni, Veni, Vici, vous savez. Bref, il a écrasé maintenant les derniers partisans de Pompée en Afrique, dont le roi Juba de Numidie. César, donc, connaît son triomphe. Il rentre à Rome devant un peuple qui n'en peut plus, un Sénat qui est bien obligé de l'accueillir à bras ouverts. Et dans les bagages du victorieux César, la jeune Arsinoé, qui rejoint la longue liste des souverains vaincus par César et qui attendent dans les prisons romaines le jour du triomphe du vainqueur. Il y en a d'autres, hein. Il y a Vercingétorix aussi, bien sûr. D'ordinaire, les femmes sont épargnées par le traitement qu'on inflige aux vaincus. Vercingétorix a été promené, exhibé dans les rues. Ce n'était pas le cas du tout des femmes seulement. Pour Arsinoé, César décide de faire une exception. Peut-être parce qu'elle lui a tenu tête et qu'il s'est senti menacé quand il était enfermé, encerclé dans Alexandrie. Peut-être aussi pour bien montrer que l'Égypte est désormais sous la coupe de Rome. Et si Cléopâtre avait insisté pour qu'on inflige à sa sœur un châtiment exemplaire ? Toujours est-il que, le jour venu, Arsinoé est conduite dans les rues de Rome, chargée de chaînes. Alors certes, les chaînes sont dorées, mais enfin ça change pas grand-chose. La foule se presse pour voir cette jeune captive. Un spectacle qui ne produit pas l'effet escompté, puisqu'au lieu des huées habituelles, eh bien, ce qui saisit la foule, c'est l'émotion en vérité, oui. De voir cette jeune et belle princesse, cette descendante de Ptolémée Sauter, traînée comme ça dans la poussière, comme un vulgaire barbare. Non, là, vraiment, les Romains trouvent que c'est trop. Le peuple murmure, on s'apitoie. Et César, qui a un sens absolument aigu de l'opinion, comprend qu'il ne va pas pouvoir mettre à mort Arsinoé comme l'aurait voulu la tradition. Au lieu de l'étranglement rituel dans la prison du Tullianum, il décide donc d'épargner la sœur de celle qu'il aime et de l'envoyer en exil à Éphèse, en Asie mineure, pour vivre comme suppliante dans le sanctuaire d'Artémis. Une fonction sacerdotale qui, théoriquement, devrait l'empêcher de prétendre au trône d'Égypte. C'est une façon de régler le problème de la succession d'Égypte et d'assurer sa maîtresse, Cléopâtre, qu'on ne viendra pas lui disputer son pouvoir et que cette sœur, un peu trop remuante, est définitivement mise au rancard. Cléopâtre, qui est présente à Rome, hein, bien sûr, et qui assiste à la scène du triomphe, Cléopâtre, on doit pouvoir imaginer son agacement d'ailleurs, Cléopâtre aurait aimé qu'on soit plus sévère. Tant qu'Arsinoé respire, elle est une menace pour elle, parce que pour certains Égyptiens, Arsinoé a autant de droits au trône que Cléopâtre elle-même, peut-être même davantage, puisque contrairement à sa sœur, elle n'a pas choisi Rome contre son propre peuple. Au contraire, elle est devenue le symbole de la résistance à Rome. Cléopâtre, en vérité, n'a pas oublié la leçon reçue adolescente dans l'ombre du palais d'Alexandrie. Le pouvoir ne se partage pas chez les Ptolémées, il s'arrache. Et la graine de la méfiance a été plantée. Il va falloir maintenant 4 ans pour qu'elle germe cette graine-là et pour qu'elle porte son fruit empoisonné.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
Donc les années passent et en 44, César est donc assassiné aux Ides de Mars. Rome replonge dans la guerre civile, vous le savez. Cléopâtre, qui a perdu son protecteur, doit séduire le nouvel homme fort de l'Orient, qui est donc Marc-Antoine. En 43, un complot à Chypre impliquant le gouverneur Sérapion laisse entendre qu'Arsinoé pourrait encore servir de figure de proue à une rébellion égyptienne contre Rome. Cléopâtre reprend Chypre, fait exécuter Sérapion et peu de temps après, le jeune Ptolémée XIV va mourir. Il a 13 ans, il a été empoisonné. En tout cas, c'est ce que disent les mauvaises langues. Bref, Cléopâtre est à peu près tranquille là maintenant. Mais, il y a toujours Arsinoé. En 41, Cléopâtre a rencontré à Tarse, en Turquie, là, elle a rencontré Marc-Antoine avec cette scène célèbre. Elle est sur sa galère somptueuse et un peu comme César 10 ans plus tôt, elle va faire tomber Marc-Antoine sous son charme. Cléopâtre demande un prix pour son alliance, pour son amour. Et ce prix, ce qu'elle demande à Marc-Antoine, c'est la tête de sa sœur. Et Antoine, qui est amoureux, qui est soucieux aussi d'assurer la fidélité de l'Égypte, Marc-Antoine va céder. Au mépris de toutes les lois sacrées qui normalement protègent les sanctuaires, il va envoyer à Éphèse un certain nombre d'hommes de main pour faire assassiner Arsinoé qui meurt dans l'enceinte sacrée. Une fois de plus, le sang d'Elagide a coulé, et cette fois, il a coulé à Éphèse dans cette enceinte sacrée. Près de 2000 ans plus tard, je dis bien 2000 ans plus tard, en 1926, des archéologues autrichiens découvriront à Éphèse un monument funéraire impressionnant qu'ils appellent l'octogone, en raison de sa forme un peu inhabituelle. Et 3 ans plus tard, ils découvriront un crâne, celui d'une jeune femme morte au 1er siècle avant notre ère. Et de fil en aiguille, on va pouvoir soutenir que ce crâne, c'est celui d'Arsinoé. Hypothèse séduisante, sauf qu'en 2024, des chercheurs de l'université de Vienne vont soumettre ce crâne à des analyses génétiques et à des examens physiques pour conclure que le squelette n'appartient pas à une femme mais à un garçon. C'était un jeune Romain qui avait entre 11 et 14 ans, qui souffrait de graves troubles du développement. Et voilà, terminé la fiction qui a duré près de 100 ans, hein, de 1926 à 2024. Le lieu où repose Arsinoé, sœur de Cléopâtre, est donc inconnue. Peut-être qu'elle dort encore quelque part sous les ruines d'Éphèse, parcourue par tous ces milliers de touristes. Peut-être que son corps a été jeté à la mer, ou qu'il a été brûlé sans cérémonie, on ne le saura jamais. Reste son histoire, l'histoire de la petite princesse qui, pas très longtemps, aura osé défier César, l'histoire de cette reine éphémère qui a tenu Alexandrie pendant un an, de cette captive qui a marché enchaînée mais digne dans les rues de Rome, de cet exilé assassiné dans un temple sacré sur ordre de sa propre sœur, point final d'une tragédie qui avait commencé 20 ans plus tôt. Oui, 20 ans, figurez-vous, c'est pas long quand même.
Vous écoutez Radio Classique.
Merci beaucoup à Gaspard Le Marinier de s'être attaché à cette figure de la jeune princesse Arsinoé. Et voici notre princesse à nous, c'est Pauline Lambert. Bonjour Pauline.
Bonjour Franck, merci à vous. Le roi de l'histoire, de toutes les histoires et des grands dossiers de l'histoire. Vous m'avez donné envie de rester encore un peu avec Cléopâtre. C'est cette musique de film signée Alex North que je vous propose d'écouter tout de suite. On vous retrouve évidemment à 14h pour l'évocation alors de toute autre chose, Pearl Harbor. Et puis dans un instant, place à la musique, nous allons changer d'air et nous allons danser, ça fait du bien, il fait froid ce matin, il fait gris. Nous allons danser la pavane ensemble dans un instant.
PFG sera toujours à vos côtés. Alors en cas de décès, appelez PFG au 3012 pour une prise en charge immédiate de jour comme de nuit. Urgence décès 3012, un service PFG.
Sophie Lemonnier-Valaise, violoniste et directrice musicale de Voyage d'Exception.
Voyage d'Exception, c'est le spécialiste des croisières musicales. Des voyages uniques, des bateaux haut de gamme et à taille humaine. Des fleuves majestueux, le Danube, le Douro, la Moldau ou encore la Seine. Une ambiance intimiste avec Jean-François Zigel, Philippe Bernold, Laurent Corsia, Dana Ciocarli et d'autres musiciens de renom qui partagent avec vous leur passion pour la musique.
Renseignements et réservations au 01 75 77 87 48 ou sur voyage-exception.fr.
Dans le couloir, au Théâtre Héberto, avec Jean-Pierre Daroussin et Christine Murillo. Une comédie aussi drôle que bouleversante, au dialogue mordant, signé Jean-Claude Grimbert et mise en scène par Charles Torchman. Avec ce huis clos cynique mais tendre, Grimbert mêle rire et larmes pour raconter la famille, l'amour et la difficulté de vivre ensemble. Allez donc savoir qui des rires ou des larmes l'emporteront. Dans le couloir, dès le 24 janvier au Théâtre Héberto. Réservé sur théâtreheberto.com.
Territoires enneigés et enivrants se déploient à la scène musicale. L'archet de la violoniste Lia Petrova vous guide dans l'hypnotisant concerto pour violon de Mendelssohn avant de plonger dans le rêve d'hiver de la première symphonie de Tchaïkovski. Un voyage par l'Orchestre symphonique des Flandres, dirigé par Martin Dendievel, à retrouver ce 21 janvier à la scène musicale.
Vous l'attendiez ? La folle soirée de l'Opéra Radio Classique revient pour deux soirées exceptionnelles. Venez vivre les plus belles émotions de l'opéra à travers les airs emblématiques des grands compositeurs. Un fabuleux concert vous attend, porté par l'Orchestre National d'Île-de-France et des voix d'exception. La folle soirée de l'Opéra, un concert Radio Classique animé par Jean-Michel Duez, les 19 et 20 juin prochains à 20h au Théâtre des Champs-Élysées à Paris. Réservation sur théâtrechampselysees.fr.
Ah, chez Air Caraïbes, ils ont du XXL.
Du XXL ?
Eh oui, confort XXL pour voyager en classe premium économie dès 999€ ou en classe affaires à partir de 1499€.
Pour aller où ?
Guadeloupe, Martinique, bref, toutes les destinations Air Caraïbes. Tu vois, je te l'avais dit que j'avais besoin du XXL.
XXL pour la classe, le siège et le service aussi.
Jusqu'au 22 janvier 2026, profitez des instants promo d'Air Caraïbes et voyagez avec un confort XXL. Rendez-vous sur aircaraïbes.com. Offre soumise à condition.
Air Caraïbes, la compagnie haute en couleur.
Référence du service aux entreprises, GSF Propreté et Services s'allie à Pénélope, leader de l'accueil, pour proposer une offre complète de prestations. Des solutions intégrées et sur mesure, essentielles à la performance de vos environnements professionnels. GSF et Pénélope unissent leur savoir-faire et éclairent les rendez-vous échos de la matinale de Radio Classique.
Midi, changer d'air avec Pauline Lambert sur Radio Classique.
Et quel plaisir de vous retrouver en direct pour changer d'air ensemble pendant 2h30. Il fait gris sur une bonne partie du pays ce matin, avec encore quelques pluies dans le sud de la France. Mais c'est un vrai soleil qui va inonder les ondes de Radio Classique et illuminer votre matinée. Beaucoup de bonnes ondes, je vous le promets. Et pour commencer, je vous propose de nous réchauffer, de nous échauffer avant d'esquisser quelques pas de danse. Alors, c'est parti. Levez-vous, allez-y. Vous pouvez tourner la tête à droite et à gauche. Tournez les poignets et puis les chevilles. Étirez-vous, réveillez-vous bien et ça y est, vous êtes prête pour danser ce matin. Une danse très élégante, assez noble et lente. C'est une pavane avec laquelle nous allons commencer cette émission et même pendant une demi-heure, nous allons retrouver plusieurs pavanes, à commencer par celle de Gabriel Fauré, légèrement surannée mais très douce et sucrée.
Thank you.
Et nous commençons cette émission tout en douceur en ce mardi 20 janvier avec cette pavane, ce duo entre les voix d'hommes et les voix de femmes dans cette pavane de Gabriel Fauré. C'est vrai, un brin suranné, mais je l'aime beaucoup, cette version pour chœur et orchestre. Ici, Paavo Järvi avec son chœur et son orchestre de Paris. La pavane, je vous le disais, c'est une danse ancienne, une danse de couple, assez lente, très élégante, très prisée au XVIe et au XVIIe siècle, en particulier dans l'orchestre de Louis XIII. Alors la preuve, avec cette pavane faite au mariage de Monsieur Vendôme, elle est signée Philidor l'aîné. La pavane qui est bel et bien une danse noble, élégante et solennelle comme celle du mariage de Monsieur Vendôme au tout début du XVIIe siècle. C'est une musique qui figure dans cet album de Jordi Savall, l'orchestre de Louis XIII, qui reconstitue comme ça, qui recompose un peu toutes les musiques que le roi a pu entendre en tant que dauphin au moment de son sacre, de son mariage, et puis par les 24 violons du roi. Ici donc Jordi Savall avec son concert des nations. La pavane, une danse donc très prisée au XVIIe et XVIIIe siècle par François Couperin aussi, qui en écrit beaucoup. Et bien plus tard, au XXe siècle, Richard Strauss lui rend hommage avec cette pavane d'après donc une danse de François Couperin.
Thank you.
Richard Strauss qui reprend des pièces de clavecin de François Couperin dans cette introduction et ses rondes solennelles, les premières notes de cette suite de danse. Et vous venez d'entendre aussi la sonorité du clavecin qui résonne au cœur de cet orchestre symphonique de Nouvelle-Zélande dirigé par Youn Merkel. Alors il n'y a pas que les compositeurs français Philidor, Couperin et Fauré qui composent des pavanes. Les Espagnols ne sont pas en reste, comme ici Isaac Albéniz, cette pavane caprice. Écoutez tout d'abord ce tri, cette oscillation entre deux notes, et puis ensuite ce rythme de pavane qui s'installe.
Thank you.
Isaac Albéniz, c'est cette pavane Caprice, arrangement pour piano à quatre mains, ici par le Nexus Piano Duo. Encore quelques exemples de pavanes qui sont très présentes dans l'œuvre de Maurice Ravel. Je vous en parlais l'année dernière, compositeur qui adore la danse, toutes les danses lointaines, les danses archaïsantes, les danses modernes, les danses lointaines aussi par leur origine, notamment d'Extrême-Orient. Alors voici tout d'abord cette très belle pavane pour une infante défunte. Une allitération des assonances aussi que Maurice Ravel aimait beaucoup et qui explique le choix de ce titre car il ne se réfère pas à une princesse en particulier. Écoutez ici le corps mélancolique et lointain qui colore cette très belle mélodie.
Thank you. Radio Classique.
Très belle pavane de Maurice Ravel, la pavane pour une infante défunte. Et puis à l'instant, cette pavane de la Belle au bois dormant qui figure dans son recueil Ma mère Loire, ici jouée par Ludmila Berlinskaya et Arthur Ancel. Bien d'autres danses à suivre dans Changer d'air, des valses, des polkas et puis une symphonie, la quatrième de Beethoven. Ce sera juste après le flash de 10h. Alors
améliorez votre expérience d'écoute de Radio Classique grâce au DAB+. Bénéficiez d'une qualité sonore exceptionnelle et de données plus complètes sur la programmation musicale. Plongez au cœur de vos chefs-d'œuvre préférés sans interférence ni grésillement. Une radio gratuite en qualité numérique, sans abonnement ni connexion Internet. Radio Classique vous accompagne en haute définition grâce à la technologie DAB+. Plus d'informations sur dab+.fr.
Union des coopératives agricoles françaises, Invivo s'engage pour une agriculture résiliente, souveraine, rentable et durable. Invivo accompagne la transition agricole et soutient notre souveraineté alimentaire avec des solutions innovantes et responsables au service des agriculteurs. Avec Invivo, cultivez vos connaissances éco dans le décryptage à 7h54 sur Radio Classique.
T'es où ?
Je me suis perdu. Trop d'offres ?
Bah, on est là pour les soldes.
T'inquiète, j'ai déjà réservé une croisière Costa, tout inclus.
Ok, on se retrouve à la sortie alors.
Ne ratez pas les soldes Costa. Réservez votre croisière d'été avant le 3 février avec 300 euros de réduction par cabine. Info en agence ou sur costacroisière.fr. Costa.
Radio Classique et la salle Gaveau vous donnent rendez-vous en février pour 4 concerts d'exception. Le prodige du piano Lucas Schisch joue Mozart avec l'orchestre L'Amoureux. La soprano Nadine Sierra et le pianiste Brian Waghorn vous emmènent de Debussy à Villa-Lobos. Jean-François Zigel réinvente les fables de La Fontaine au piano. Et enfin, Sandrine Pio, Jérôme Correas et les Paladins célèbrent les héroïnes de Handel. Découvrez le programme du 1er au 20 février et réservez vos places sur salgavo.com. Salgavo, la musique en grand.
Le soleil italien s'invite à la salle Gaveau. L'orchestre L'Amoureux et Adrien Perruchon vous offrent un ciel aux teintes adriatiques en février, accompagné de la mandoline de Julien Martineau. Un concert où les mélodies dansent. De la symphonie italienne de Félix Mendelssohn aux chaudes couleurs des œuvres de Raffaele Calace, sans oublier l'ouverture en ut majeur de Fanny Mendelssohn. Viva l'Italia! Un voyage entre mandoline et orchestre le 8 février à réserver sur salgavo.com.
Bonjour, c'est Franck Ferrand. Vous connaissez et vous plébiscitez les rencontres de la salle Gaveau, où l'histoire et la musique se mêlent. Et bien cette fois, je vous invite à plonger dans l'univers de Bizet. Et c'est avec les très talentueux Eugénie Jauneau, Julien Henric et Antoine Paloc que nous aurons le plaisir de vous faire découvrir ou redécouvrir Carmen.
Carmen ou la liberté, un concert Radio Classique avec Franck Ferrand, le 19 février prochain, salle Gaveau à Paris. Réservation au 01 49 53 05 07 ou sur salgaveau.com.
En France, 3 millions de personnes sont atteintes d'une maladie génétique. En faisant un leg à l'Institut Imagine, vous pouvez les aider. Comme en témoigne la maman de Maya.
Maya souffre d'une maladie génétique pour laquelle il n'y a pas de traitement. En faisant un leg, vous apportez votre soutien aux familles. C'est nous donner l'espoir de comprendre, de traiter et d'un jour guérir nos enfants. C'est un geste d'amour.
Transmettez l'espoir, transmettez la vie. Faites un leg à l'Institut des maladies génétiques sur institutimagine.org.
Ah, chez Air Caraïbes, ils ont du XXL.
Du XXL ?
Eh oui, confort XXL pour voyager en classe premium économie dès 999 € ou en classe affaires à partir de 1499 €.
Pour aller où ?
Guadeloupe, Martinique, bref, toutes les destinations Air Caraïbes. Tu vois, je te l'avais dit que j'avais besoin du XXL.
XXL pour la classe, le siège et le service aussi.
Jusqu'au 22 janvier 2026, profitez des instants promo d'Air Caraïbes et voyagez avec un confort XXL. Rendez-vous sur aircaraïbes.com. Offre soumise à condition.
Air Caraïbes, la compagnie.